Bonjour Rachel Hertel. Lorsque nous avons collectivement réfléchi à l'organisation de cet entretien et de ces lectures, lorsque nous avons cherché les mots-clés, les mots-portes qui nous permettraient de pénétrer avec vous dans le Yiddishland littéraire, plusieurs noms de lieux se sont imposés à nous. C'est donc la mémoire des lieux, la vôtre, mais aussi celle des écrivains et des poètes yiddish que vous avez traduits, que nous souhaiterions explorer au cours de ce quatrième volet. J'ai pensé passer cette exploration sous les auspices paradoxaux d'un écrivain qui ne parlait pas le yiddish parce que cette langue ne lui avait pas été transmise par ses parents, parce que lui non plus n'avait pas de souvenirs d'enfance. Il s'agit de Georges Perec. Je vais donc tout d'abord vous lire un extrait d'un ouvrage paru en 1974, Espèce d'espace, et vous pourrez, si vous le souhaitez, s'il vous inspire, le commenter. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayez méticuleusement de retenir quelque chose. De faire survivre quelque chose. Arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Rachel Hertel, est-ce que vous voulez peut-être commenter cette citation sur le temps et l'espace pour commencer?
Bien oui, enfin, ça me semble, enfin, d'abord, c'est magnifiquement dit, comme toujours, ce qu'écrit Perec est absolument superbe. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu, et cette mise en relation de l'espace et du temps est absolument, comment dirais-je, inspirante. C'est-à-dire que l'espace s'efface, bien sûr, par le temps. C'est ainsi que le temps, quand Perec a écrit ce livre, les espaces qu'il avait vus un jour avaient disparu. En revanche, et ils avaient disparu par le passage du temps. Et pourtant, ils restent liés. Par quoi restent-ils liés? C'est comme cela que je l'entends. Ils restent liés par la parole. Et c'est par la parole et l'écriture qu'on peut pérenniser les espaces, même ceux qui disparaissent. Et l'écriture est le moyen de rendre éternel ce qui est éphémère.
Je vous remercie Rachel Hertel pour ce joli commentaire qui sera sûrement très pertinent justement pour introduire le premier mot que nous avons choisi de vous donner à commenter. Ce premier mot, c'est un lieu, bien sûr, hein, mais un lieu d'élection, un lieu de nostalgie. Un lieu du Yiddishland et surtout un mot yiddish, il s'agit du shtetl. Pouvez-vous tout d'abord, Rachel Hertel, nous donner votre définition de ce terme, shtetl?
Shtetl, c'est le diminutif de shtot. Shtot, c'est la ville et shtetl, c'est le village. Donc, ce qui, dans la culture juive d'Europe de l'Est, les juifs qui n'avaient, spécialement en Russie, n'avaient pas droit d'habiter les grandes villes. Ils se trouvaient, ils vivaient dans ce qu'on appelle un shtetl, parce qu'il y avait une sorte de... ce n'était pas des ghettos, c'était ouvert, mais c'était un lieu de vie pour les juifs. Enfin, ils pouvaient sortir, mais pas pour aller dans les grandes villes qui leur étaient interdites. Et donc, ils se sont regroupés dans des villages Et ces villages étaient semi-urbains, semi-campagnards. Et c'est là que se faisaient les rencontres entre les Juifs et les non-Juifs, les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, les Lituaniens, etc., partout en Europe de l'Est. Et ces villages, donc, et les échanges se faisaient de la façon suivante. Les Juifs étaient des artisans, et les paysans étaient des cultivateurs. Et les échanges se faisaient lors des marchés hebdomadaires ou bi-hebdomadaires entre les Juifs et les paysans. Les Juifs apportant les objets artisanaux qu'ils produisaient, et les paysans apportant la nourriture dont que consommaient les Juifs. Et donc, il y avait à la fois une opposition, bien sûr, et un lien. Et l'opposition est du fait que le shtetl était semi-urbain et entouré par la campagne. Et dans la campagne vivaient les population du pays d'accueil. Et donc, le yiddish a intégré dans sa langue beaucoup de termes de slave, par exemple, ou lituanien ou autre, si bien que le yiddish est une langue, bien sûr, une sorte de bâtarde, ou une langue qui est traversée, comme dit Kafka, qui est traversée par toutes les langues que les Juifs d'Europe de l'Est ont rencontrées. Et donc, le shtetl est devenu en quelque sorte le lieu aboli, comme cet espace qui disparaît, et en même temps, il y a eu la nostalgie de cet espace disparu. Si bien que dans la littérature yiddish, de nombreux poètes et prosateurs ont, surtout après la guerre, bien sûr, après la destruction de ces lieux par le nazisme, eh bien, ils ont sanctifié en quelque sorte ces lieux et ils les ont beaucoup écrits pour les pérenniser. Justement, c'est ce qu'on avait remarqué dans la citation que vous avez faite de Perec. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un poème qui est consacré au shtetl, qui est de Raïssa Jechlinski, et qui dit, et voilà, le titre c'est « Weit, weit ist das shtetl », qui veut dire « loin, loin est le village ».« Weit, weit ist das shtetl unter Schneien. Die Werbe, so haben mein Schwurf bewacht, holen sich mir jede Nacht. In Hastam haben sie sich noch mehr eingebeugt über den Teich, wo ich flog abwurfe mit den Wolkensreden heuch. So hat die Mama gewacht über das Wasser, ascho und noch ascho. Nur der Teich hat sie gesilbert und der Krieg ist gewendet. Kieser sind gekommen zum Wasser und getrunken die Kepp. Sehr Vernachtkeit geschrie und die Stern geweckt. Weit, weit ist das Städtel an ein ausgerissenes Blatt von der Mames Figur. Die Werbes, was hab mein Schlaf gewacht, holen sich mir jede Nacht. Alors, si vous voulez, vous pouvez le lire en français, qui sera plus compréhensible pour ceux qui nous écoutent.
Donc, je lis votre traduction, Rachel Hertel. Loin, loin est le village, enseveli sous les neiges. Les saules qui veillaient sur mon sommeil peuplent mes rêves toutes les nuits. Leurs branches ont plongé plus avant dans l'eau. Une heure encore. Le fleuve miroité argent et la cruche scintillée bleue. les vaches dans l'eau trempaient leurs museaux et leur crépusculaire beuglement éveillait les étoiles. Loin, loin est le village, page arrachée du rituel de ma mère, les saules qui veillaient sur mon sommeil peuplent mes rêves toutes les nuits. Alors, c'est un poème très touchant par sa simplicité et également par l'assimilation, la fusion qui est faite, me semble-t-il, entre le shtetl ici et la mer, non, Rachel Hertel?
Oui, c'est-à-dire, c'est le lieu maternel. C'est là qu'elle est née en 1910, dans un shtetl, et elle a toujours gardé la nostalgie. Et cette nostalgie s'est transformée en douleur après l'extermination, quand ce lieu a disparu. Et ce lieu, donc, est un lieu matriciel et un lieu maternel, d'où l'association, bien sûr, de la mère et du shtetl. Et comme lien entre les deux, il y a cette page de son recueil de prières. Donc, vous voyez, il y a à la fois ce lieu, il y a sa nostalgie de ce lieu maternel, et aussi la sanctification qui intervient avec la page arrachée au livre de prière.
On voit aussi dans ce poème le paradoxe entre l'éloignement, loin, loin est le village enseveli sous les neiges, ou la page arrachée, et puis le fait que dans les rêves et dans l'écriture, le village, comme la mer, reste toujours présent.
Bien sûr, et même éveillés et endormis, ils viennent dans les rêves comme dans la veille.
Oui, oui, oui. Ce que l'on peut remarquer également et qui me semble caractéristique de la poésie de Jirlinski, pour ceux que j'en connais, c'est cette manière d'effacer tous les particularismes locaux et culturels pour donner un poème très universel qui parle à tout le monde.
Bien sûr, parce que effectivement, elle est ce qui caractérise l'écriture de Raison sur Jirlinski, c'est son extrême simplicité. Et ça, c'est vraiment paradoxal et rare chez les écrivains yiddish et chez d'autres écrivains ou poètes, c'est que les mots sont des mots nus. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des images, ce sont véritablement des lieux ou des objets ou des personnes. Et ce qui est étrange et tellement bouleversant dans cette poésie, c'est qu'elle se passe de toutes les métaphores, de toutes les images, et les mots seuls, nus, ont la puissance d'éveiller des images et des métaphores dans chaque poème. Et c'est ça qui est très, très bouleversant pour moi. Et c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, m'évoque les haïkus japonais. Par la nature, par souvent des poèmes très courts, de quatrains, très souvent, et qui utilisent effectivement des objets, des nuages, des animaux. Et nous retrouvons la même chose chez Raison sur Jirlinski, et ces mots nus ne sont pas accompagnés de comparaisons, d'images ou d'artifices quelconques. Ils parlent directement et ils sont très troublants par leurs paroles simples et par leur nudité, en quelque sorte.
Merci pour cette analyse. Le deuxième mot que nous avons choisi tranche violemment avec le shtetl, puisqu'il ne s'agit pas d'un lieu cocon, mais d'un lieu de relégation, d'un lieu d'emprisonnement, d'un lieu de déportation. Il ne s'agit pas non plus d'un espace défini, mais d'un espace immense au contour mal défini, puisqu'il s'agit de la Sibérie. Que vous évoque ce mot, Rachel Hertel?
La Sibérie m'évoque beaucoup de choses. D'abord, mes personnels, puisque j'ai passé les premières années de mon enfance en Sibérie, où nous étions déplacés à partir de la Lituanie. Donc, ça m'est très personnel. Ça évoque tout de suite quelque chose qui m'est d'autant plus personnel que je n'en ai pas le souvenir. Et le souvenir ne peut me revenir qu'à travers les poèmes ou les paroles des écrivains. Donc ça, c'est la première remarque en ce qui concerne la Sibérie. L'autre remarque, évidemment, est celle qui concerne les poèmes de Soutskever. Soutskever avait été déplacé également, pas par les mêmes. Lui, il a été déplacé par les Soviétiques après après la comment dire l'accord des Russes et des nazis en 1939 et quand les Russes, et ce sont les Allemands qui sont entrés les premiers, les nazis qui sont entrés les premiers dans la Lituanie, à Vilno où ils se trouvaient, et ensuite sont arrivés les Russes. Et il y a eu en quelque sorte un partage entre les nazis et les soviétiques. Les soviétiques avaient pour les nazis, c'était les juifs qui étaient condamnés d'avance. Pour les soviétiques, c'était les juifs qui étaient en désaccord avec l'idéologie communiste. Et ils ont donc, les uns ont exterminé, c'est-à-dire les nazis, les autres, les soviétiques, ont déporté ce qui ne correspondait pas aux normes de la politique soviétique. Et Soutskever, avec sa famille, s'est trouvé déporté comme ça en Sibérie parce que sa famille était juive et n'adhérait pas à la politique soviétique. Soutskever était trop jeune à l'époque pour se mêler de politique, mais visiblement ses parents ne correspondaient pas à cela. Et donc ils ont été déportés, de même que mon père biologique. Ça, c'est un lieu qui, pour Soutskever, est devenu, au contraire du shtetl, il est devenu, pour lui, sa mémoire. Il a, dans ses poèmes, cette blancheur splendide qui couvrait les plaines de Sibérie, mais il a aussi, elle est associée à la mort de son père, qui est mort en Sibérie, si bien que la Sibérie et la beauté de ses paysages sont liées la mort du père. Donc c'est toujours très ambivalent, mais c'est effectivement très beau et c'est le premier recueil qu'il a publié.
Alors, vous avez choisi dans ce premier recueil donc Sibérie, c'est 1936 je crois la publication.
Tout à fait.
Vous avez choisi un poème qui est intitulé « Dans la hutte ». Voulez-vous en lire tout ou partie en yiddish?
Non, je lirai peut-être un autre que j'ai également, parce que je ne l'ai pas trouvé là pour l'instant. Donc, je lirai un autre en yiddish de Soutskever qui est beaucoup plus tragique.
D'accord. Voulez-vous que je lise en la traduction que vous en avez faite?
Oui, volontiers.
Donc, dans la hutte. Soleil couchant, chemin bleu verglacé, rêve de douces couleurs assoupies dans l'âme. La lumière d'une hutte brille à ta rencontre, ensevelie sous une neige aux lueurs du couchant. Aux vitres des forêts à prodiges oscillent, des clochettes, de magiques traîneaux teintent. Dans le minuscule grenier, des colombes roucoulent et déroucoulent mon visage. Sous la glace pailletée, percée de cristaux scintillants, l'irtiche frissonne, palpite dans l'air irréel. Sous des coupoles de silence, muette, fleurit un monde, un enfant de 7 ans. Dans un clair-obscur sous la neige, la hutte de mon enfance en Sibérie. Dans mes prunelles enténébrées, naît le vif argent des fleurs fleuries sans fin. Dans les recoins sombres, éteints, la lune jette son éblouissant souffle envoûtant. Mon père est blanc de la pâleur de la lune. Le silence de la neige enveloppe ses mains. Il découpe le pain noir avec le couteau affûté et miséricordieux. Ses traits d'un bleu pâle. Mes pensées neuves tranchées par la lame. Pieusement, je trempe le pain de mon père dans le sel. Couteau. Père. La mèche de la lampe fume. Enfance. Enfant. Une ombre décroche le violon du mur. De fin, fin, fin son de neige coule sur ma tête. Silence. Mon père joue. Les notes se gravent dans les airs, dans le gel. Un souffle d'argent bleu, mon haleine, monte sous la neige, sous la lune dans la neige, grain de verre. À travers la vitre en pelisse de glace, un loup se repaît de la chair de la musique. Silence. Dans notre pigeonnier, une colombe pique, perce son œuf et sort vers la vie. Alors, ce poème est effectivement surprenant parce que on aurait tendance à lier la Sibérie, à en faire un lieu de peur et de désespoir. Or ici, ce qui sort de ce poème, c'est plutôt la beauté du lieu et l'impression d'un moment d'un moment très précieux. Entre l'enfant et le père.
Oui, effectivement, c'est un poème d'abord qui évoque la nature de manière magnifique et d'autre part qui fait déjà le lien entre la blancheur et du paysage et la musique du père. Et la participation de la nature, de ce loup qui se repaît de la beauté de la musique. Donc nous sommes effectivement dans un lieu de l'enfance, un lieu qui pour l'enfant qui était sous Skeber n'était pas du tout effrayant, était au contraire un lieu de beauté, un lieu où il a grandi et il évoque, bien sûr, beaucoup plus tard, en 1936, il évoque, donc c'est à la fois le paysage et le souvenir qu'il en a, ou l'imaginaire qu'il en a, et c'est comme ça que se formule ces liens surprenants entre la neige, le père, le loup, la musique, et ça ne peut être que quelque chose de chaleureux malgré la glace de l'Irtiche, c'est-à-dire du fleuve qui, la moitié de l'année était de la glace et la moitié de l'année coulait et chantait. Donc effectivement, il y a là une vision qui est totalement différente de celle qu'ont pu avoir évidemment les déportés politiques qui étaient condamnés à perpétuité, comme ça a été le cas pour Leivik, par exemple, dans les bals du Tsar, et pour tous les opposants russes, que ce soit sous le Tsar ou sous Staline, pour qui c'était un lieu de terreur et de mort. Là, nous avons une image très surprenante pour notre époque, parce que nous savons ce qui s'y est passé, ce qu'à l'époque où Soustievert a vécu là-bas, il n'y avait pas ces poids de l'histoire.
Ce qui ressort également de ce poème, c'est sa grande musicalité. On voit dans la traduction tout le travail d'assonance et d'allitération que vous avez recréé en français. Pouvez-vous nous parler, Rachel Hertel, de la façon dont vous métamorphosez la musique du yiddish en musique française? Comment se passe ce moment de traduction? Est-ce que vous essayez de rester fidèle aux effets sonores de la poésie originale, ou bien est-ce que vous restituez d'une autre façon cette musique?
Je la restitue de toute façon d'une autre manière, hein, parce que à cette époque, tout ce qu'il y avait, écrivait sa poésie en vers rimés. Et ces vers rimés, bien entendu, ne sont pas pour moi reproduisibles en français, ce qui donnerait des vers de Burliton, en fait. Donc, il fallait trouver un autre moyen de donner cette musicalité qui en yiddish est créée par la rime. Et c'est pour cela que j'introduis les allitérations, les assonances, les différentes formes de musicalité que peut avoir la poésie en dehors des rimes. Et c'est ça le travail pour moi en tant que traducteur.
Et alors, on voit également dans ce poème quelque chose qui apparaît, me semble-t-il, régulièrement dans les textes de votre main. Ce sont les mots composés et les verbes composés aussi, comme l'irtiche frissonne, palpite. Est-ce que dans le texte original, il y avait à cet endroit-là un néologisme, ou bien, voilà, comment en êtes-vous arrivé à cette formulation, l'irtiche frissonne, palpite dans l'air irréel?
Oui, c'est-à-dire qu'en yiddish, il y a des mots composés. Les mots composés, on ne peut pas les retrouver en français. Le yiddish, comme l'anglais par exemple, peut agglutiner des mots pour former de nouveaux mots. Le français ne peut pas le faire. Donc, on trouve dans ce mot composé, moi en tout cas, je le décompose, si bien qu'on trouve les deux sens et les deux sons, mais qui ne forment pas un seul mot.
D'accord, merci. Alors, nous allons en arriver à notre troisième et dernier terme, nom de lieu. Il s'agit du mot ghetto, donc d'un mot italien après un mot yiddish et un mot français emprunté au russe. Donc, le ghetto, et vous avez choisi également un poème de Avrom Soustievert pour l'illustrer. Voulez-vous nous parler du poème que vous avez choisi?
Alors effectivement, quand la Lituanie, quand Vilno a été envahie par les nazis et par les Russes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 60 000 juifs ont été enfermés dans le ghetto, c'est-à-dire dans une partie de la ville qui était fermée, et une sorte de prison, enfin, une sorte de camp. Et ils ne pouvaient pas sortir de ce ghetto et les Lituaniens ne pouvaient pas y entrer. Donc, ils étaient véritablement enfermés, sans pouvoir avoir de contact avec qui que ce soit. Ces 60 000 juifs, en gros, ont tous péri d'une manière ou d'une autre, les uns par la faim qui s'était imposée dans le ghetto, par l'absence de médicaments, par la misère, par la brutalité, par les fusillades, parce qu'ils ont été, il y a eu beaucoup d'entre eux qui ont été déplacés vers un lieu, un camp qui s'appelle Podar, Podari en polonais, qui était où se pratiquait l'extermination, le génocide par balle. Donc, on était dans un lieu d'horreur, de terreur. Et Soutskever réduit encore cet espace déjà d'enfermement, il le réduit encore dans le poème que je veux vous lire et qui s'appelle en yiddish « Ich lieg in an Horn », c'est-à-dire « je étendu dans un cercueil ». C'est-à-dire il est plus encore, il est doublement enfermé, enfermé par le ghetto et à l'intérieur du ghetto, il se trouve étendu dans un cercueil. Et c'est et là, effectivement, enfin, le tragique de la situation ressort avec une puissance tout à fait extraordinaire et qui rend compte de cette horreur, tout en décrivant de manière simple aussi, mais dans un registre beaucoup plus élevé que le registre de Jechlinski, par exemple, de Reisel Jechlinski. Alors voilà, « Ich lieg in an Horn »,« Ich lieg in an Horn wie hölzerne Kleider »,« Ich lieg sans einziger Schiffel auf spärmische Qualles » so sein sie sei wieger. Und da, wo es haben sich gerufen, geschieht mit der Zeit, ruf ihr dich, Schwester, und du hörst mein Rufen in weit. Was tut sich in Ohren ein Zappel, ein Leib unter Gericht? Du kommst in der See dein Schwarzappel, dein Atem, dein Licht. Also ist er vor dem der Seder, ein da, morgen dort, und jetzt in einem Ohren, wie in hölzerne Kleider, singt als noch mein Wort.
Étendu dans un, je le lis en français.
Dans un cercueil.
Étendu dans un cercueil comme un habit de bois, étendu, disons, que c'est un vaisseau sur les vagues de l'orage. Disons que c'est un berceau. Et là, où des corps se sont séparés du temps, je t'appelle, ma sœur, et tu entends mon appel au loin. Que se passe-t-il dans le cercueil? Un corps inattendu? Tu viens. Je reconnais ta pupille, ton souffle, ta lumière. Ainsi va l'ordre des choses. Aujourd'hui, ici, demain, là-bas, maintenant, dans un cercueil, comme un habit de bois, triomphe encore ma parole. Alors, vous avez parlé, Rachel Hertel, de la puissance tragique de ce poème. Vous avez parlé de la puissance tragique de ce poème. Oui.
Il y a une puissance tragique et en même temps, il y a la parole, il y a l'écrit. Il appelle sa sœur, évidemment, donc il cherche la tendresse, l'amour qu'ils ont partagé. Il a plusieurs poèmes à sa sœur. Mais là, ce qui est surprenant et en même temps bouleversant dans la première strophe, c'est qu'il traite ce recueil comme un navire, comme un bateau et ou comme comme un berceau. Et donc là, c'est tout à fait surprenant parce que le rapprochement entre cercueil, navire et berceau sont tout à fait surprenants. Surprenants surtout dans la situation où ils se trouvent. Ce n'est pas l'objet qui est surprenant en soi, mais c'est dans la situation où ils se trouvent qu'ils puissent s'imaginer dans un navire, dans un berceau et dans les vagues. Pourtant, il sait bien qu'il se trouve dans un lieu où son corps se séparera du temps, puisqu'il est condamné et son âme, si l'on veut, enfin son esprit, évidemment, se séparera de son corps. Malgré cela, nous avons un contraste entre la première strophe qui évoque sa manière de magnifier, sa manière d'imaginer ce cercueil et la réalité qui intervient dans la deuxième strophe. C'est là que sa sœur lui apparaît dans le cercueil. Sa sœur le rejoint, sa sœur qui l'a appelé et qui a répondu à son appel en se présentant devant lui. Et ce sur quoi se termine le poème, et qui est une insertion très importante pour Soutskever, c'est bien que vêtu d'un habit de bois, ma parole chante. Et ce qui est très important, c'est on retrouve dans ce rapprochement ce qu'on avait trouvé dans Pérec, c'est-à-dire le temps qui est l'espace et la dichotomie entre le temps et l'espace. Et on trouve en même temps autre chose qui est le leitmotiv de la poésie de Soutskever, c'est l'idée que la parole est salvatrice. La parole, l'écriture, c'est ce qui reste. Et il est, lui, en tant que poète, je rappelle que le mot vient du grec poietas, qui veut dire l'artisan, le créateur. Sa parole va conserver, va pérenniser toutes les expériences qu'il traverse. Et la parole est quelque chose de central, la réflexion. Chez Soutskever, la parole dans la pensée de Soutskever est quelque chose de central, parce que la parole est créatrice. Ça s'inscrit à la fois personnellement et culturellement. Dans la Bible, la Genèse commence par Elohim a dit que soit la lumière, et la lumière fut. Et il y a 29 versets comme ça où le Créateur, Dieu, dit et cela s'incarne. Et ce que Soutskever pensait aussi, c'est que lui, en tant que poète, en tant que maître du beau, pouvait créer à l'égal de Dieu ceux qui se disaient, parce que ceux qui passent par la parole passent par l'écriture, et créateur comme l'est la parole de Dieu. Et donc il y avait à la fois il se sent comme une sorte de démiurge dans la situation critique où il se trouve, et c'est un leitmotiv de l'ensemble de la poésie de Soetskever, qui est souvent une méditation sur une métapoétique. Et ça, c'est la poésie comme création, lui comme démiurge à l'égal de Dieu, puisque sa parole, à la fois, comme on l'a dit, pérennise et sa parole sanctifie. Et elle fait advenir.
Et merci. Et pour vous avez parlé de la parole créatrice et de la parole salvatrice. Il me semble que à ce sujet, sur les poèmes qui peuvent sauver, vous aviez une anecdote concernant l'évasion de Soetskever du ghetto. Est-ce que vous pourriez nous la raconter pour clore joliment ce moment ?
Oui. Alors, c'est la parole salvatrice, l'écriture poétique comme salvatrice et comme aussi comme comment dire, comme transformant, la parole se transforme en acte. Donc nous avons les deux sens de poète du grec, créateur et artisan, et en même temps, la parole salvatrice, elle se résume dans un poème ou dans une introduction à un de ses recueils, la veille de la liquidation du ghetto, c'est-à-dire de l'extermination de toute la population juive du ghetto. Soetskever, sa femme et quelques amis décident de fuir le ghetto. Ils passent par les égouts et ils arrivent, ils veulent rejoindre les partisans dans les forêts, ils passent par les égouts et pour arriver jusqu'aux partisans de la forêt, ils doivent traverser un champ, mais un champ de mines. Et Soetskever raconte que pendant qu'il traversait le champ de mines, il récitait des vers. Et il dit que ces vers lui ont permis de poser son pied ailleurs que sur la mine, et c'est comme ça que les vers lui ont sauvé la vie.
Je vous remercie, Rachel Hertel. Et nous clôturons ainsi cette émission sur cette anecdote. À bientôt.
À bientôt et merci de votre lecture et de vos rapprochements également. Et Soetskever maintenant est disponible en français et je crois que c'est une lecture très, très émouvante, très belle. Vraiment, je trouve que c'est un poète sublime, peut-être un des plus grands du XXe siècle.
Je pense que vous aurez donné envie à nos auditeurs de le lire.
J'espère.